Il est Marc, salut les Smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. WrestleMania est derrière nous. Nous sommes à Backlash, le plus gros pay-per-view du mois de mai. On relance les hostilités. 6 matchs étaient à la carte. Nous étions situés au Dunkin' Donuts Center à Providence, Rhode Island. Michael Cole, Pat McAfee, Jimmy Smith, Corey Graves, Byron Saxton, tout le gratin des commentateurs était là. Nous étions le 8 mai 2022. Beaucoup de matchs revanche étaient à la carte. Et quoi de mieux pour analyser avec moi ce pay-per-view incroyable que Tonton. Salut Tonton.
Et salut El Patron et salut peuple de catcheur. Je commence d'entrée, je suis chaud bouillant pour ce Backlash. Un gros retour de flamme et bien content d'être dans une grosse analyse avec vous tous.
Il est avec nous également Géliel. Salut Géliel.
Salut RM, salut Tonton.
Et là vous dites, ah super catch-up, ils font une triple frite, c'est formidable. On retourne au basique, aux valeurs sûres des analyses de pay-per-view. Et là je vous dis, ben non, nous ne sommes pas trois. Nous sommes quatre. On fait un four fatal pour cette analyse de pay-per-view avec... Vous savez quoi ? Vous le savez, il n'y a pas de retraite dans le catch. Il n'y a pas de retraite dans le catch. Il n'y en a jamais. Ça n'existe pas.
Ah non,
vous l'avez vu, Ringside a fait son grand retour pour le pré-show de Backlash et pour l'analyse de Backlash. Un autre retour, il était parti, il nous avait abandonné. Parti lors de la Covid Mania au moment où on avait besoin de lui. Mais il est de retour. Incroyable, mais vrai. OG, The Original, Giscal est là. Salut Giscal.
Ah, salut tout le monde, salut peuple de Catch-Up. C'est un retour très très émouvant. Je suis très ému de vous retrouver.
Salut Gilles, l'inénarrable Giscal, Fatal Four, baby.
Ah oui, beaucoup d'émotions, hein, les filles qui se déshabillent et tout, c'est quelque chose ici dans le studio.
Ah ouais, je vois que le studio a bien changé. Hein. Ouais.
Génial qu'il y a de l'émotion, il y a des filles à poil, voilà.
c'est très 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 chaud dans le studio. Je vois que les budgets ont augmenté depuis que je suis parti.
Bah oui.
Ça a doublé,
oui. On a refait toute la déco, mais t'as vu, on a gardé ton fauteuil. Hein. Toujours le même.
Oui, voilà. Oui, je vois. Quelques trous dedans, là, mais il est toujours là.
Ouais. Il y a eu des soirées assez folles, assez agitées, hein, auxquelles tu n'étais plus invité. C'est normal, hein, après tout.
Non, mais c'est normal. Après, je suis parti, je suis revenu. Mais tu l'as bien dit, il n'y a jamais de retraite dans le catch. Le devoir m'appelait, la foule m'appelait, même si peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là et qui n'ont jamais entendu ma voix, mais... Il va falloir que je refasse ma place parmi tous ces monuments du podcast podcatch français.
Eh oui, moi, ta place, t'inquiète pas, tu vas la refaire. On compte sur toi, mon bon Giscal, pour apporter toute ta finesse d'analyse, tes traits d'humour. Et... non, je déconne.
Mais qui est ce mec? Il n'avait pas été banni il y a 2 ans.
Je ne connais pas
cet homme.
Bon, alors avant d'attaquer, je vous préviens tout de suite, on va en parler hein, de tout, là vous faites les malins et tout, mais comme vous le savez, il y a eu des pronostics qui ont été faits, à la fin, après la grosse analyse, on fera les comptes, hein, on fera les comptes de tous vos pronos, de tous les pronos de nos auditeurs et nos auditrices, pour savoir qui a remporté ce première passe d'armes pour ce championnat des pronostics de catch-up, et je vous annonce dès maintenant, il y a du grabuge, il va y avoir du scandale à tous les étages. Et on en reparlera juste après le main event. Bon, on avait 6 matchs. Ça a duré quoi ? 2h30, 3h à peu près le pay-per-view ? C'était plutôt...
2h53 exactement.
Non, c'était très digeste.
C'était tout à fait très digeste. Pas mal de rematchs. Et surtout, on a commencé évidemment en opener avec l'un des gros rematchs les plus attendus de la soirée. Cody Rhodes, père et fils, versus Seth Rollins pour la revanche de WrestleMania. On se souvient, Seth Rollins a raison, hein, c'était plein que Cody Rhodes avait bénéficié de l'effet de surprise lors de leur première rencontre, et il avait donc demandé d'avoir sa vraie chance ce soir à Backlash. Cody Rhodes avait répondu oui, alors les deux hommes rentrent sur les vivas de la foule, hein, Cody Rhodes qui est revenu tout simplement en main eventer à la WWE, hein, il a tout compris au business. Le match commence... avec une grosse ambiance, les deux hommes ont tout simplement construit un match qui va monter en tension et en intensité au fur et à mesure. On fait pas mal de contres au début entre les deux hommes, ça se chauffe, voilà, on s'appelle avec le public, on joue pas mal, et puis tout d'un coup, le match commence à s'emballer avec, on va dire, Seth Rollins qui semble être le plus en contrôle. Au début du match, il fait pas mal de taunts, hein. Normalement, notamment, il reprend le move du père de Cody Rhodes, hein, l'enchaînement de descente du coude, là, avec la petite pichenette à la fin. Donc, on commence vraiment à basculer dans le combat psychologique, un petit peu entre les deux hommes. On va dire la cadence du match augmente, la foule commence à croque à pleines dents, hein, pour les différents moments entre les deux hommes. On a différents tentatives du crossroad, on a des tentatives aussi du pedigree. D'ailleurs, les deux hommes vont se contrer à tour de rôle la tentative de pedigree. C'était plutôt bien foutu. On a les disaster kicks de Cody Rhodes. Le premier qui passe et le second qui ne passe pas, incroyable, hein, transformé en powerbomb par Seth Rollins. Hein, c'était magnifique, je suis sûr que là, vous étiez debout dans votre salon. Et à la fin, celui qui gagne, c'est l'homme le plus intelligent, le plus malin, avec, évidemment, Cody Rhodes, qui agrippe le pantalon. On voit presque le cucu de Seth Rollins, hein, c'était pas très gracieux. Et le petit paquet, le petit roll-up pour la victoire de Cody Rhodes, la seconde victoire de Cody Rhodes. Et Seth Rollins, qui ne comprend pas et qui va voir l'arbitre, qui lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, Giscal, je te plonge, je te pousse directement dans l'eau du bain, c'est chaud bouillant. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Victoire du nouveau top guy de la WWE, j'ai l'impression. Vince s'est trouvé une petite poule aux œufs d'or, là, j'ai l'impression. J'ai trouvé ça très très cool. J'ai trouvé ça très cool, ce match. Et je suis assez bluffé du retour de Cody Rhodes. Alors moi, c'est vrai que je me suis éloigné des écrans, des micros, de tout pendant de longs mois. Et alors, déjà que je regardais plus beaucoup la WWE, je regardais encore moins l'AEW. Donc j'avais complètement perdu de vue Cody Rhodes. Et je suis assez bluffé par le bonhomme. Je le trouve. Alors déjà, bon, il s'est épaissi physiquement, j'ai l'impression. Ou alors j'ai un problème. C'est les caméras de la WWE qui épaississent tout le monde, je sais pas. Mais il s'est déjà pas mal épaissi. Mais je trouve qu'il s'est épaissi aussi d'un point de vue même de son catch, de la prestance, de l'aura qui dégage. Son entrée, comment il regarde la foule, comment il marque des pauses dans le match. Je trouve qu'il a un charisme qu'il n'avait pas, je trouve. Il est parti quoi, 4, 5, 6 ans, je sais pas combien de temps il est parti, mais en tout cas je suis assez stupéfait depuis qu'il est revenu de ce qu'il dégage. Et je pense que ça va faire un joli run, et c'est confirmé par ce match encore une nouvelle fois dans la lignée de ce qu'ils ont fait à WrestleMania. Alors ça reprenait tous les codes du match de revanche classique, hein. C'est tout, tu l'as dit, hein, tous les contres, tous les callbacks au match précédent. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé que c'était un peu bon. Après, la WWE, ils sont un peu coutumiers du fait, mais les commentateurs j'avais envie de leur dire, mais laissez-nous regarder le match, ils sont capables de raconter une histoire sans vous, hein, parce qu'ils étaient très à surcommenter tous les spots. Ah, souvenez-vous, c'était le machin, il a fait ça à WrestleMania, ou ah, qu'est-ce qu'ils se connaissent, ah, c'est incroyable, regardez, il le contre et tout. Bon, c'était un peu too much, parce que j'ai trouvé qu'en fait le boulot dans les cordes était déjà super efficace, il n'y avait presque pas besoin d'eux pour comprendre ce qui se passait. Mais donc victoire à la fin, qui est le résultat logique pour Cody, qui est sur une trajectoire, à mon avis, qui va le porter vers le titre. Mais j'espère le plus longtemps possible, parce qu'on reparlera peut-être du top guy, du champion, plus tard dans l'émission. J'espère que leurs courses ne se télescoperont pas trop vite. Mais en tout cas, voilà, une super victoire, et moi je suis assez bluffé de ce nouveau Cody Rhodes qui se présente à moi. Pour mon retour.
Ah, carrément, non, mais. Hein? Et tu lis Cody Rhodes, le retour de Cody Rhodes, le retour de Giscal.
Non, je le lis pas. Enfin, voilà, c'est pour mon retour aux affaires. Je suis vraiment ravi d'être le témoin de ça, quoi.
Ah, ouais, bah, c'est magnifique. Non, bah, le gars, quoi.
Enfin, Cody, il a bossé pendant 3 ans, hein, dans la fédé d'à côté, tu vois. Quoi,
ah, c'était que 3 ans. Tu vois, je me demandais si c'était 4, 5 ou. Non, c'était 3 ans. Non, mais bien sûr qu'il a bossé. C'est juste que, tu vois, moi je suis un... Je regardais pas, donc, tu vois, moi, je le redécouvre. Tu vois, c'est vraiment une renaissance.
Ouais. Effectivement, il s'est bien épaissi. Ce match était plein de contres. On a eu des super moves. J'ai parlé de Pedigree, mais on a eu des super kicks qui se sont enchaînés, des buckle bombs dans tous les sens, des Falcon Arrow. On a eu cette crossroad où Rollins s'est retrouvé avec le pied dans les cordes. Enfin, vraiment, c'était très intense.
Le Cody Cutter, c'est génial comme prise.
Ah ouais, le Cutter, oui. Bah, le premier qui a été contré, je lui ai foutu un gros kick, mais le deuxième, il était passé. Ouais. C'était vraiment bien foutu. Tonton, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match revanche?
C'était un bel opener. Hein. Je pense qu'il était, je l'ai trouvé supérieur au match de WrestleMania.
Ah oui.
Et on a eu presque un match de 21 minutes hein, quand même. Quoi, hein. Donc là, ils se sont pas foutus de notre gueule. Hein. Et puis bah, Cody, ouais, il est dans la grosse hype. Alors moi, évidemment, je vis pas du tout ça comme une renaissance, à contrario de l'inénarrable Giscal, parce que je suis Cody assidûment depuis qu'il est parti de la WWE. Donc, et pour moi, en fait, j'ai vu un match de Cody dans les critères de ce qu'il a fait pendant 3 ans à la All Elite Wrestling. Et comme là, il est face à un des meilleurs workers au monde, en l'occurrence l'architraître, et bah, du coup, ça donne un match auquel je mettrais un 4 étoiles et demi, quoi. Et pourtant je l'avais annoncé, j'avais annoncé la victoire de Cody, il me semble, hein, moi les pronos je les oublie en fait dès le lendemain, mais j'étais quand même surpris parce que, et ça c'était bien d'ailleurs que je sois surpris par ça, parce que je me disais quand même que c'était fou que la WWE prenne l'option 2-0 Cody Rhodes contre Seth Rollins, c'est quand même un sacré pari face au tel catcher qu'est Seth Rollins, quoi, dont ils ont surtout pas envie ou besoin qu'ils perdent de la hype, le Seth Rollins, quoi, donc il faut qu'ils perdent, mais il faut réussir à le protéger en même temps, et c'est pas un exercice facile, et je trouve que dans le cas de ce match, en tout cas ils l'ont réussi, et donc c'est pour moi c'est mission accomplished de la WWE sur cet opener, c'était ma foi un fort beau match.
Bon, Gilial, pour toi aussi la mission accomplie avec ce D0, est-ce qu'on a réussi à protéger cette Rollins et à mettre tout simplement à continuer à garder la fusée là au cul de Cody Rhodes?
Oui, pour moi, mission accomplie. En plus, ça s'est fait dans les formes. Effectivement, hein, j'ai pas trouvé que, vu le match qu'il a fait, Seth Rollins était sorti particulièrement faible, même si comptablement, effectivement, ça fait 2-0. Le match était très très bon. Je reviens aussi sur ce que dit Giscal. Je l'ai trouvé aussi fortement épaissi, le père Cody, mais on sent que c'est dense. Hein, c'est pas que du pâté croûte.
Ah oui, non, clairement.
Voilà. Et du coup, ça m'a aussi fait repenser que Seth Rollins, depuis quelques années aussi, avait été aussi passé peut-être un peu plus par la salle et était beaucoup plus épais et dense qu'il y a quelques années. Du coup, ça a donné quelque chose de vraiment très sympa. Là, on est plus sur l'opener et sur le retour, comme on avait pu voir à WrestleMania avec Cody Rhodes qui revient, on le redécouvre, etc., etc. Là, le personnage est quand même plus posé, le catch est également beaucoup plus complet, le match est beaucoup plus sympa à suivre. Il y a des spots vraiment sympas, les Cody Cutter, qui passe vachement bien. Au final, Cody gagne. L'histoire se racontait plutôt pas mal. Je pense qu'effectivement, il fallait cette rivalité de retour contre quelqu'un de super bon, mais qui aurait pas forcément souffert de perdre 2 fois parce que Seth Rollins ne voilà, il est pas particulièrement affecté par cette double défaite, on va lui trouver un autre chose à faire. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'avec 2 victoires comme ça, qu'est-ce qui va s'écrire pour Cody Rhodes dans la forme qu'il a, dans la hype qu'il a. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que il peut attaquer à peu près n'importe quoi. Alors, on verra peut-être plus tard par rapport au titre réunifié, mais il a peut-être d'autres intermédiaires à aller chercher avant, où il est parfaitement légitime avec ce qu'il a montré sur ces 2 matchs, en quelque sorte, et surtout sur le dernier.
Ouais, ça va être le vrai challenge, ça, je pense. En tout cas, moi, pour moi, c'est le vrai enjeu. S'ils veulent faire quelque chose de bien avec le retour de Cody Rhodes, ça va être de prendre leur temps et de lui faire gagner plusieurs feuds comme ça, de beaux profils. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir son prochain adversaire. C'est peut-être pas complètement fini avec Seth Rollins, mais ça va être intéressant.
Ouais, la guerre, je serais tenté de dire, c'est dommage parce que, enfin, on en avait parlé lors du gros pré-show, que la guerre psychologique entre les deux fait peut-être que commencer, hein, parce qu'il avait commencé déjà à poser quelques cailloux, là, quelques pièces, en s'attaquant au père, au fils.
Ouais, tout à fait.
Et finalement, non, on va aller beaucoup plus loin. Là, je pense que là, voilà, il a perdu la bataille physique, hein, 2-0, ouais. Voilà, comptable, c'est fini. Maintenant, c'est Seth Rollins. le visionnaire, l'architraite, comme on dit, va peut-être jouer un peu plus la guerre psychologique avec son vis-à-vis.
Et Lynn Sell pourrait être un bon pay-per-view pour une troisième manche finale.
Exactement. Deuxième match, revanche de WrestleMania. Alors, celui-ci, je sais que vous l'attendiez tous. Bobby Lashley versus Omos. Bobby Lashley qui avait remporté la première à WrestleMania. Cette fois-ci, Omos donc accompagné de MVP. Et c'est parti pour un match, ma foi, qui était un peu plus riche que leur précédente rencontre. On a notamment un Bobby Lashley qui va réussir à maîtriser et à malmener Omos, hein, le grand. Il va même réussir à lui placer son Hurtlock sur la fin. Ça, c'était assez incroyable, hein, cette séquence où Bobby parvient, le Almighty parvient à aller chercher le Hurtlock, rien que de réussir à le placer. Alors, il n'a pas réussi à se débarrasser de son adversaire avec le Hurtlock, mais rien que de réussir à placer un mec qui fait 2m30, réussir à placer cette prise, c'était déjà un beau haut fait pour l'ancien champion de la WWE. Omos, lui aussi, a réussi à placer quelques bonnes taloches, bien aidé par MVP, hein, qui a fait une distraction lors du match, et MVP qui n'était pas en reste, hein, qui a balancé quelques scuds là, au pauvre Bobby Lashley dès qu'il pouvait. Je ne sais plus, à un moment, il lui a placé un truc, il lui a dit... Je ne sais plus ce qu'il lui a placé, mais il lui a demandé s'il ne regrettait pas ses choix de vie, je crois, un truc comme ça. Genre, t'avais Bobby Lashley qui était un peu sonné. Il fait « Alors, ça, tu ne regrettes pas là tous les choix que tu as fait dans la vie ?» C'est quand tu y repenses aujourd'hui, là, alors tu te retrouves là. Peut-être que tu aurais fait des choses autrement. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu pas mal de choses. On a eu Bobby Lashley qui a passé un spinebuster. Ça, c'était pas mal aussi. Et puis MVP qui arrive et qui donne un petit coup de canne. Et le choke bomb de Omos pour la victoire. 1, 2, 3, victoire du géant grâce à l'intervention du manager. Mon bon tonton, est-ce qu'on a réussi à faire mieux avec ce deuxième match?
Bah, je te rejoins, plutôt un match pas trop long en plus, un peu moins de 9 minutes. Et je trouve que finalement c'était peut-être encore mieux, ouais, effectivement, que à WrestleMania, là aussi, comme pour Cody versus Seth. Bon, Omos, c'est compliqué dans le ring par moment, quoi. Hein. Il y a des moments, mais Bobby est tellement énorme. Et Bobby se prend des pops aussi, lui, en ce moment, quoi. Mm-hmm. C'est alors là, par contre, hein, moi, de semaine en semaine, hein, je continue à vraiment être épaté par vraiment la réaction du public face à Bobinator, quoi. Et c'est cool. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je l'attendais pour la victoire. Et que c'est finalement la victoire du géant nigérian. Et alors je crois que c'est Ringside pendant le gros pré-show qui avait dit que bon voilà, finalement on allait peut-être enterrer Omos avec cette affaire et puis qu'on allait passer à quelque chose de plus sérieux avec Bobby Lashley. Et bah pas du tout, finalement on se rend compte que Omos il continue à miser sur lui, que je pense pas qu'ils lui ont donné cette victoire comme ça là, tu vois, histoire de dire, je pense que c'est loin d'être terminé tout ça. Et Omos, bah écoute, apparemment il y a un vrai plan. Donc bah écoute, on va voir, on verra la suite.
Jusqu'à là, je t'ai entendu faire qu'est-ce que tu entends par
Non, enfin c'est, ouais, en fait, j'ai été assez impressionné, ouais, par Bobby Lashley. C'est pareil, hein, depuis que j'ai repris un peu les visionnages, il y a manifestement un engouement du public, ouais, derrière lui qui est mérité, et tout, c'est cool. Et non, c'est juste qu'en fait, c'est plus sur le court moyen terme. Enfin, moi, c'était vraiment... J'ai trouvé le match très bien, très très bien, pour un match de pay-per-view court, impactant, entre deux gros mecs qui se foutent sur la tronche. Enfin, c'est du match made in WWE classique. Hein. C'est
tout à fait, efficace. Ouais. Du powerhouse.
Voilà, du gros powerhouse qui se rend
la
dedans.
La viande.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment un show match pour Bobby Lashley, en fait. Et certes, il le perd de la bonne manière, c'est-à-dire il le perd sur une tricherie. Oui. Mais pendant tout le match, c'était Bobby, c'est un monstre. Il est à ça de déloger, enfin de faire chuter la montagne. Il l'a soulevé à un moment pour une sorte de choke slam. Il lui a porté son Hurtlock. Enfin, voilà, tu sens que c'était un peu un showcase de Bobby Lashley. C'est vraiment une force de la nature. Rien que son entrée m'avait mis un peu, je trouvais, la puce à l'oreille sur le fait que, ok, ça allait être un moment pour faire briller Lashley. Parce qu'ils sont entrés sur le podium avec les nouvelles lumières et tout. Je trouvais ça super impressionnant. On est d'accord, c'était la première fois qu'il rentrait comme ça, parce que j'ai pas eu souvenir de voir ça avant.
Ils ont changé légèrement son theme song.
Ouais, et en fait, je pense clairement que, alors, Homos, ils ont peut-être des plans avec lui, mais je pense clairement que c'était un match pour préparer une revanche sur laquelle, justement, Bobby Lashley va avoir une victoire décisive sur Homos, et que c'est une sorte de victoire un peu de feu d'intermédiaire pour lui, pour le réaffirmer comme étant vraiment une putain de montagne de ouf, un mec ultra puissant qui aura déboulonné Homos, je sais pas, dans une cage ou dans un match no DQ à Hell in a Cell, et ça va le relancer pour son run de face dans la carte à Arrow. J'ai pas du tout le. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu un match où je me dis. Homos. Après, peut-être qu'il aura des trucs, des autres programmes pour lui, hein, mais je pense qu'il est vraiment là pour faire briller Bobby Lashley in fine. Et c'est ce que j'ai ressenti sur ce match où, voilà, c'est passé à ça. Tu sentais qu'il a fait une démonstration de force, Bobby Lashley, et que s'il n'y avait pas eu MVP, et c'est sans doute l'histoire qu'il y aura à Hell in a Cell, je le vois un peu comme ça. S'il n'y avait pas eu MVP, c'était gagné. Et qu'il n'a pas besoin de lui, quoi. Donc c'est un peu ça que j'ai vu, quoi.
Et toi, Gélial, est-ce que tu trouves aussi qu'on a fait briller notre perdant ce soir ?
Oui, et puis je vais apporter une petite voix dissonante, mais c'est ça l'intérêt aussi des Fatal 4-Way, c'est que moi, je suis pas du tout convaincu par Homos pour le moment, quoi. Donc forcément, Bobby Lashley, c'était, pour revenir sur le match en tant que tel, c'était impressionnant, parce que d'habitude, c'est lui qui est souvent, enfin, il est 1m96, ouais. Je crois, ou 95, non, 91, je crois, Bobby Lashley. C'est souvent lui qui domine. Là, face à la montagne Homos, on l'a vu placer ce qu'il plaçait d'habitude, et c'était compliqué dans tout. Ça fait un peu le gars qui défend au basket sur un gars plus grand que lui, quoi. Tout est compliqué, quoi. Et il a tout tenté, effectivement. Il a montré tout ce qu'il était capable de faire. Et puis, moi, je l'ai pas vu très en dessous physiquement, hein, par rapport à Homos. Au contraire, il est déjà tanké 20 fois plus que Homos. Homos a un ADN un peu différent, c'est surtout ça. Donc oui, il a perdu, mais contre quelque chose qui était beaucoup plus gros que lui, donc c'est pas finalement si grave que ça. Par contre, Homos, quoi. Enfin, pour moi, il y a rien du tout, il y a que dalle, quoi. Homos, c'est 2m20. Quand on sait ce que faisait l'Undertaker à 2m10, alors je comprends, hein, 10 cm, ouais, pas de souci. Hein. Ah, là, quand même, in-ring, putain, ça fait mal.
Non,
quand
mais
même,
ouais, je suis assez d'accord, je suis un peu déçu aussi quand même de. Enfin, tu vois, je repense à des profils type Braun Strowman, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire et tout. Je trouve que, voilà, c'est un peu limité. C'est la tour de contrôle au milieu du ring qui colle des gros chops sur la tête, là, et des big boots. Je sais pas, est-ce que ce profil a encore une place, hormis justement à la WWE, dans le catch moderne un peu, est-ce que ça a encore sa place, hormis justement en position un peu de faire valoir pour des matchs comme ça, en fait, hein, pour des mecs qui d'habitude sont, comme l'a dit Géliel, hein, des monstres de la nature, qui ont l'habitude de tout dominer, qu'ils aient des roadblocks un peu, là, des gros se heurter à des murs de temps en temps, ça leur permet d'avoir des feutres qui changent un petit peu de style, mais sur lesquels voilà, c'est eux qui gagnent à la fin. Parce que
Homos reprend finalement un petit peu le genre de ce que faisait le Great Khali, finalement.
Ouais,
c'est
ouais,
c'est à quoi je pensais. Ouais, exactement. Quoi je pensais.
Ouais. Le Great Khali qui servait un petit peu de maître étalon pour mecs qu'on met en face des gros top guys pour de temps en temps leur mettre un énorme défi, c'est genre avec l'histoire de David contre Goliath, mais des mecs qui n'ont pas l'habitude d'être David, quoi. et je pense que ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais il est utile dans un roster, mais tu vois, ça ira pas plus loin, je pense. Mais
et puis il manque, à mon avis, il manque pas mal de choses. Il commence à avoir quelques expressions un peu faciales pour donner un peu le change, mais sur le reste, les timings, ils sont pas forcément super bons. Les coups sont pas non plus portés de manière dingue. Ouais, ça, alors bon, il a que 27 ans, hein, donc ça demande un peu de taf encore certainement. Ouais, mais je trouve que ça prend quand même du temps, parce que ça fait déjà un petit moment qu'il est sur la scène, quoi. Et que s'il devait bosser, ou que s'il y avait vraiment quelque chose pour Homos, enfin, il est pas prêt d'avoir sa fusée avec ce qu'il présente, quoi, en tout cas. Ouais, c'est ce que je pense. Voilà.
Effectivement, c'était un match que j'ai trouvé plus intéressant que leur premier, mais ouais. Peut-être qu'il faut plus miser quand même sur Bobby Lashley que sur Homos. Est-ce que l'histoire va continuer ? C'est possible, avec ce jab de MVP qui est toujours dans les parages. On enchaîne sur le troisième rematch, le troisième vengeance. Hein. C'était le thème de ce soir, avec un autre match très attendu. Et pas juste pour le match, il faut se l'avouer, mais Edge versus AJ Styles avec Damien Priest qui était interdit ce soir des abords du ring. On verra d'ailleurs un peu plus tard qu'il se joue un petit peu de ce règlement. Hein. Il y a des zones grises dans le règlement à la WWE. Edge Styles qui fonce directement hein, sur Edge avec ce thème song que Tonton adore évidemment.
Yeah, on the other side.
La version Pitbull hein, de Edge Styles réclamée à corps et à cri par le Hall of Famer canadien. Il tente à un moment donné de placer un phénoménal forearm mais il est contré là d'un bon coup de pied. Ensuite, on travaille l'épaule. Hein, il est un peu blessé. Edge Styles, il avait été attaqué durement par la superstar Redhead Hall et Damien Priest. Edge reprend hein, progressivement le contrôle du match avec Edge Styles qui se bat comme un beau diable. On a quand même pas mal de prises assez incroyables qui sont placées. On a le calf crusher qui est placé. On a eu pas mal de backbreakers aussi qui ont été placés à gauche, à droite. On va dans les cordes pour s'en sortir. Le spear qui est chargé, mais il se fait exploser là, le Edge dans le coin du ring. Le second spear qui connecte, le Styles Clash qui est placé. Alors il faut aller le chercher, là on se rend compte quand même, je sais pas vous, mais moi je me suis rendu compte que Edge est très grand, parce que pour placer le Styles Clash, il fallait le chercher, qu'il le tient à la verticale. Edge, il est immense, immense, immense le Canadien. Les Canadiens sont de grands hommes, il faut le savoir, il faut le dire. Donc ça ne passe pas parce que c'est arrêté simplement à 2,88 et oui j'ai compté le phénomène forearm qui est chargé à nouveau mais là qui débarque alors qu'il n'avait pas le droit de venir, c'est Damien Priest. Mais Damien Priest il fait pop pop, moi je suis sur la rampe, j'ai le droit, on n'a pas dit interdit de venir sur la rampe, je suis juste là, je ne viens pas foutre la merde, je suis juste là, je vais regarder, je ne viens pas toucher, je regarde et puis c'est tout. Et ça crée évidemment du bordel. Finn Balor débarque à son tour pour se débarrasser de Damien Priest. Hein. Tout ce beau monde était un peu en bisbille ces dernières semaines. Et alors qu'on se dit, oh, attends, mais c'est Finn Balor ou c'est pas Finn Balor? Mais qui ça peut bien être? Eh bien, un troisième larron débarque en cagoule. Un black box, il est là. C'est qui? Bah, Edge en profite pour placer le crossface, le slipper, pour tout simplement envoyer notre ami AJ Styles au dodo, à la sieste. Et le troisième homme n'est pas un homme, le troisième homme est une femme, le gagnant est une gagnante, puisque, messieurs, dames, Rhea Ripley rejoint le Judgment Day, Rhea Ripley rejoint Edge et Damien Priest. Je crois que cette image est assez incroyable, finalement. Moi je vous avoue que j'étais complètement dingue, puisque j'ai passé par toutes sortes d'émotions à faire le listing de tous les gens, tous les catcheurs qui allaient pouvoir rejoindre Edge. Alors là, Rhea Ripley, moi je sais pas, parce que moi je n'écoute pas, je ne lis pas les ragots, les rumeurs qui frétillent, qui frémillent sur Internet. Et au début, quand j'ai vu les épaules, je me disais, mais c'est qui? Des jambes toutes fines et des épaules comme ça?
C'est pareil, je cherchais.
Ça peut pas être Ali, il n'est pas comme ça. Alors, je me suis dit, c'est les jambes d'Ali et puis les épaules de Ciampa, quelque chose comme ça. Attends, je ne comprenais pas trop qui ça pouvait être. Et puis, observer, puis avec des cheveux noirs, hein, parce qu'elle est, elle s'est évidemment un petit peu, elle passait chez le coiffeur un petit peu, une petite couleur, là. Et là, Rhea Ripley, alors là, moi j'étais, mais j'ai popé de dingue. Tiens, Giscal, toi, est-ce que tu as popé comme moi, là, en voyant le.
Ouais, j'ai popé cette révélation. Non, franchement, super, super bien amené. J'ai trouvé l'exécution vraiment top sur ce match. Belle surprise, cette arrivée de Rhea Ripley, pour moi c'est une super addition, plutôt que un random low card d'heure. Je trouve que c'est une très très belle addition. Il y a une vibe un peu de Straight Edge Society des années 2020, un petit peu, avec voilà une stable mixte qui est en train de se former, qui va peut-être pouvoir aller taper différentes scènes. Je trouve que c'est très intéressant, il y a un gros potentiel avec un vétéran, un jeune intéressant. Bon, moi je le porte pas dans mon cœur, mais voilà, je sais qu'il est, il est pas inintéressant, Damien Priest. Et puis une nana, et sans doute je les vois pas en rester à 3, donc je pense que c'est, il y a quelque chose qui est sympa qui est en train de s'écrire. Tout était bien fichu, l'entrée de Edge, j'ai bien aimé la façon dont il a été annoncé au ring, où le plutôt que de dire voilà, From je sais pas où, qui pèse 230, là c'était on lui listait ses titres, ses accomplissements et tout. Je trouvais que c'était assez stylé.
Donc même si t'es le Grand Slam Champion, toi, enfin tout y est.
Ouais, c'est ça, et les commentateurs ont joué un petit peu là-dessus derrière et tout. Je trouve que c'était une jolie touche. Et puis après, toute la fin du match, je l'ai trouvé très très bien amené, avec Damien Priest qui joue avec les règles, Finn Balor qui reste un peu dans la picture sans non plus trop s'impliquer sur le match, et puis c'est arrivé, et puis ce petit suspense en plus, c'était sympa parce que elle, donc à ce moment-là on ne savait pas, mais elle intervient. Il y a la décision du match qui se joue, et puis il y a un petit flottement, elle monte sur le ring, on attend et tout, donc il y a ce petit suspense.
Ça genouille, ouais, il y a assez... du temps. Ouais,
ce petit suspense, c'est sympa parce que ça laisse à tout le monde chez soi et dans le public, ça laisse à tout le monde un petit peu le moment de dire mais putain, c'est qui, tu vois, tu l'as bien dit, ces petites minutes qui sont assez précieuses, je trouve, dans des révélations comme ça, plutôt que de bâcler le truc et qui ont bien fait monter la sauce, donc je trouve que c'était bien. Et sur le match en lui-même, je serais peut-être un peu sévère parce que le truc, c'est qu'en fait, je mets la barre tellement haut pour ces deux-là que du coup, ils me déçoivent un petit peu. À WrestleMania, c'était déjà un petit peu le sentiment. Je trouve qu'il y a toujours 4-5 minutes de trop. En tout cas, s'ils veulent faire ce genre de match, il y a peut-être 4-5 minutes de trop. C'était mieux sur le démarrage. Je trouvais que c'était plus sympa qu'à WrestleMania parce que là, il y avait vraiment la dimension agressive, personnelle qui était rentrée. Dans le paysage avec un AJ Styles qui était encore plus vénère, donc le début de match était très rapide, très, très incisif, donc ça c'était cool, mais il y a encore eu un petit peu trop de temps mort, enfin moi j'en attends un petit peu plus de ces deux-là, et je trouve que pour 15 minutes de catch, ils sont capables de faire tellement mieux voilà, ce serait mon petit point noir, mais globalement c'était 15-20 minutes, tout compris, de très beaux moments de pay-per-view.
Bon, Gilles, je veux pas te faire attendre plus longtemps, voilà, qu'as-tu pensé de ton Grand Slam Champion à toi, ton Hall of Famer et maintenant le leader d'une faction mixte là, qui s'est mis en jeu, là, qui s'est créé ce soir sous tes yeux? Dis-nous tout.
Déjà, je ne vais pas revenir mais sur une victoire méritée. Hein, je pense que ça, tout le monde l'aura bien compris. À côté de ça, super moment. Tout est vraiment bien construit. J'ai trouvé qu'effectivement le match sur la durée ralentissait. Faut pas oublier qu'on a des gros quarantenaires dans la truc, mais j'ai trouvé que ça s'est aussi vu un peu moins que d'habitude. Peut-être que les temps forts et les temps calmes où d'habitude il y avait quand même des grands moments sur les derniers matchs de Edge, alors un peu moins avec Edge Style où on sentait il était à l'agonie, mais pendant 3 minutes c'est compliqué de maintenir la tension in-ring. Là ça s'est fait un peu moins. Donc j'ai trouvé ça, du coup il y avait pour moi un peu plus de dynamisme. Les deux au niveau du catch, il y a pas grand chose à en dire. Hein. C'est quand même super bon. Il y a de l'émotion, il y a du visage, ça parle, ça va chercher, ça raconte des trucs. Donc pour le match en tant que tel, vraiment, moi j'étais conquis. Et puis alors la suite là, quand il y a Damien Priest qui commence à arriver, toute la partie overbooking, j'ai trouvé ça grandiose quoi. Et alors le final avec la faction qui se construit, qui s'étoffe, et puis l'arrivée de Rhea Ripley, mais génialissime quoi. Ah, génialissime.
Ils ont l'air heureux les deux en plus. Hein, Rhea Ripley et Edge, ils se regardent, mais genre, ils ont un sourire. Genre tu sens que Edge est content d'avoir Rhea Ripley, et que Rhea Ripley elle est contente d'être avec Edge. Elle se dit,
elle sait qu'elle va s'éclater là.
Tu m'étonnes, elle se dit, alors donc je suis passé de Nikki Cross à Edge, ok, bah, je pense que j'ai fait le bon move, je crois que j'ai fait le bon move, et du coup là il y a un truc qui se construit, effectivement on a Finn Balor qui est revenu un petit peu par là, Edge Style, Finn Balor, ou alors il était peut-être juste venu pour donner un peu le change, on sait pas, en tout cas moi tout ça s'est bien déroulé, tout ça s'est bien exécuté, j'ai trouvé ça vraiment super sympa, et en plus alors là ça ouvre des portes, mais gigantesques, voilà, c'est, on l'attendait en plus. Je me faisais la réflexion par rapport à la faction intergender. On en avait parlé avec la Bloodline qui aurait pu, sous certains angles, accueillir Naomi et ça pouvait faire quelque chose d'assez sympa également. Moi, je sais que ça m'aurait bien plu. On en avait parlé lors de preview de review de SmackDown précédemment. Là, ça se fait avec Edge en plus, et puis avec Rhea Ripley qui est en pleine ascension. On a un Damien Priest qui est également quand même pas mal. Il y a encore pas mal de choses à faire avec ce rôle de mentor de Edge, mais qui reste encore fort sur le ring. Ouais. Là, moi, j'ai hâte de voir la suite et j'ai été hyper entertainé par ce match.
Ouais, alors, et toi, tonton, qu'est-ce que t'as pensé de ce match et de cette nouvelle faction, là, enfin cette faction mise à jour avec l'arrivée de Rhea Ripley? L'année a été difficile, on sait pour Rhea Ripley, mais là c'est un nouveau monde qui s'offre à elle.
Mise à jour est puissante là. Hein. Moi, comme toi, j'ai popé grave. Hein. J'étais hyper content pour Rhea Ripley, quoi, vraiment. Alors là. Mais pour revenir juste un peu avant sur le match en lui-même, moi je trouve que c'était un très bon match, quoi. Il y avait encore une fois, moi je trouve que ça a délivré la marchandise. Alors, on avait des gros workers dans le ring, quoi. Vous parlez, Edge, il fait 1m96, hein, pour parler du Edge Styles, du Styles Clash, pardon.
Putain, donc, 1m96.
1m96.
Ouais, hein, c'est pour ça, hein, ça dépassait partout en haut en bas au début.
Et justement, quoi, du coup, au passage, Rhea à côté de Edge, elle rappelle à quel point, en fait, elle est grande et physique, quoi. Parce ouais, qu'elle fait pas du tout ridicule à côté de Edge, qui est déjà une espèce de montagne en lui-même, quoi.
Ouais, puis Damien, c'est un grand, putain, ça va faire une
facture. Et ouais,
de grandes tiges, hein, quand même.
C'est clair, quoi. Donc, j'espère que tout ça, ça va la ramener vers les sommets, Rhea. Hein. En tout cas, moi, je suis hypé à fond. Le match, j'ai trouvé ça très bon. Et comme je m'attendais à un match avec beaucoup d'overbooking, moi, j'ai été étonné, en fait, de la durée. Je m'attendais à un match de 10-11 minutes et ça allait partir en couille. Donc, c'est bien partir en couille, mais le match a duré quand même presque 15 minutes 30. Et ça a été, ça a été festival, quoi. Là, franchement, j'adore, quoi. Et puis, vraiment, Edge, moi, je ne tarie pas d'éloge. Pour moi, c'est... sur les 10 dernières années, c'est le plus beau retour de vétéran qu'on ait eu, quoi. C'est-à-dire que dans le ring, il y a que lui qui a délivré la marchandise à un tel sommet. Et on en parle depuis des semaines à l'antenne, etc., Monday Nitro et tout, mais l'entrée de Edge, vous avez signalé carrément, il déroule son palmarès. Ouais, mais il y a pour moi je vois le Ministry of Darkness, je vois l'Undertaker, quoi, quand il arrive en ce moment.
Il a le pantalon violet, hein, t'as vu, hein,
c'est ah mais ouais, mais il y a vraiment, moi je suis,
il y a pas mal de clins d'œil, hein.
Ah mais il y a une espèce de d'aura Undertaker, je sais pas comment appeler ça, fact checking, peuple, j'ai déjà trouvé un nom à ça, j'en sais rien, mais en tout cas il est en train de Edge, il est en train de nous faire un truc là unique et dans une shape largement supérieure à ce que pouvait déjà être l'Undertaker à cet âge-là. Et vraiment, ah non, je suis vraiment épaté. Et puis, bon, j'adore Edge Styles, donc de toute façon, j'ai été totalement gâté dans ce match avec la joue finale de Rhea. Le Judgment Day, c'est une faction qui va tout déchirer. Je suis
final, faut voir.
Hypé.
À joue finale, faut voir. On pourrait peut-être. Enfin, moi, je pensais à Liv Morgan, mais peut-être que tout le monde va pas partager.
Non, personne partage. Et puis, à mon avis,
quelle honte.
Le prochain ajout, à mon avis, sera masculin, de toute façon.
Ouais.
Quand j'ai dit ajout final, c'était par rapport au pay-per-view, à Backlash, quoi. C'était pas par rapport à la suite.
Vous avez pas compris mon propos. J'irai voir avec Papy. Je pense qu'il a beaucoup plus d'affinité sur ce sujet-là. Voilà.
Oh oui,
c'est certain. Je ne dirai pas plus.
On revient aux affaires sérieuses, aux affaires du catch, puisqu'on attaque donc notre quatrième item sur la carte de ce Backlash, et pas des moindres, puisque Charlotte Flair, la reine, défendait une fois de plus son titre face à Ronda Rousey après un match à WrestleMania qui a vu la première défaite de Ronda en single match, tout simplement, hein, sur la plus grande scène du monde. Cette fois-ci, une grosse stipulation a été ajoutée, et pas des moindres, puisqu'il s'agit tout simplement d'un I Quit match. On sait qu'en général, quand on arrive à une telle stipulation, c'est qu'on est au bout du bout du bout, parce que faire abandonner, faire prononcer ces deux mots à son adversaire, c'est tout simplement lui mettre la honte sur cinq générations. Et les Flair, c'est une sacrée génération de catcheurs. Le match a commencé avec une Ronda Rousey, au moins, je ne parlerai pas de son maquillage, on n'est pas là pour ça, mais qu'est-ce qu'on ne comprend plus rien.
Oh.
Et qui fonce sur Charlotte, je sais pas, une espèce de panda chelou là, qui fonce sur Charlotte pour l'attaquer avec tout son arsenal qu'elle connaît bien. Alors, il y a eu pas mal de soumissions, de tentatives, mais surtout, quelle originalité. Il y a beaucoup eu de spots assez originaux pour faire tenter de dire, prononcer ce I quit à son adversaire. On a eu, ça s'est retrouvé, on a ressorti, alors on a sorti les kendo sticks, hein, on sait que Charlotte Flair adore les kendo sticks, elle en avait, voilà, Ronda Rousey en avait un, Charlotte Flair en avait deux, parce qu'elle est cherchée, je pense que c'est Vince McMahon lui-même qui a donné les kendo sticks sous le titantron dans la gorilla position à Charlotte Flair. Alors les kendo sticks, ils ont fini dans un état mais lamentable, hein, c'était du petit bois à la fin. Les filles sont tout simplement détruites l'une l'autre. On s'est retrouvé avec Ronda Rousey qui était pendue, là. C'était le cochon pendu, hein, sur le turnbuckle, avec le pauvre bras de Charlotte Flair qui était à l'agonie, qui hurlait de douleur. Et ça, sur le Discord, il y a eu de la discussion. Il y avait les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre, les gens qui ont trouvé que ça discutait trop au micro. C'est vrai qu'elle nous expliquait les émois. Elle nous a expliqué ce par quoi elle passait. Donc c'est vrai, des fois c'était un petit peu long. Vous allez peut-être me citer après des phrases choc qui ont été citées par Charlotte et par Ronda Rousey qui disaient non, tout, ça va bien là. Je maîtrise. Voilà. Je repense à mon petit déjeuner là de ce matin. Peut-être que j'aurais pas dû prendre les céréales. Mais toujours est-il qu'elles ne veulent pas abandonner. On se retrouve même. Alors ça, c'est pas mal ça qu'on se retrouve dans le public là, avec une foule qui était complètement en délire. Alors les fans qui filment ce qui est sous leurs yeux, au lieu d'en profiter pleinement, on a envie de leur mettre des claques à tous ces gens-là. Mais aucune des deux femmes n'abandonne jusqu'à ce qu'on se retrouve à nouveau au centre du ring avec une chaise qui est sortie. Et là, Charlotte fait l'erreur. Elle souhaite tout simplement une bonne fête des mères à Ronda Rousey. La jeune maman, et ça la met dans un état, mais elle lui dit même, et ça j'ai trouvé très bien cette réplique, elle dit bah, « j'attendais qu'une chose, c'est que tu me dises ça ». Et alors là, là c'était la fin, là je pense que c'était l'arrêt de mort qui était signé pour la fille de Rick, qui se retrouve donc pris dans la soumission avec la chaise, et l'improbable, l'incroyable se produit, Charlotte Flair crie « I quit », Charlotte Flair abandonne, une nouvelle championne SmackDown est couronnée ce soir, Ronda Rousey. Que d'émotions ce soir, et une Charlotte complètement défaite, en pleurs, en larmes. On sait aussi que ça fait jaser. Toi, Géliel, qu'est-ce que tu as pensé de ce match complètement fou?
Bah, la stipulation a pas mal joué, effectivement, sur le déroulé, sur le rythme du match, avec l'arbitre qui se baladait avec le micro à côté. Donc c'est inhabituel par rapport à un rôle qui est plus en retrait d'habitude, où il va justement chercher juste à compter. Bah, j'ai pas été super emballé par le match. Il y a eu des bons spots, il y a eu des choses intéressantes. Je suis désolé, mais sur une impression d'une Ronda qui est pas du tout au niveau que ce qu'elle a pu être précédemment. Moi, à chaque fois que je voyais marqué Badest sur sa brassière là, j'étais quand même un peu embêté, parce que je trouve que ça, voilà, il y avait une espèce de dissonance qui apparaissait entre le fait que elle rigole tout le temps, elle pleure quand elle est, elle a le bras tordu, etc., etc. Il y a quelque chose qui matche pas dans son positionnement, surtout avec une Charlotte super forte, vraiment super forte, qui représente vraiment la élitude absolue. Donc quand il y a marqué Badass sur l'une et puis que l'autre, dans les faits, est vraiment au-dessus. Enfin voilà, donc j'ai pas été hyper hypé. Je pense que de toute manière la victoire de Ronda était écrite. Elle le mérite, je j'arrive pas à être complètement convaincu. Il y aura certainement une suite, mais en tout cas j'ai pas accroché hyper à ce match, donc voilà, un peu sur la réserve.
Aïe, effectivement, il faut, toi, on regarde, si on se contente de on va dire analyser ce match, après si on met effectivement en perspective avec la feud et les promos qui ont été joués pour en arriver là, c'est sûr, voilà, l'équilibre est un petit peu délicat, mais elles se sont quand même mis bien sur la tronche. Et puis, elles ont hurlé à l'agonie qu'elles étaient, nos deux femmes, là. Tonton, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ah, tonton, il a I quit, il a abandonné, il a
perdu. Il a I quit.
J'ai pas quit.
J'ai pas dit quit.
Bah j'ai non, pas dit quit. Dans le match, l'arbitre, il a pas mis le micro assez proche. C'était
oui,
comme dans le match.
C'est vrai que l'arbitre, des fois, il galérait, il savait pas trop. Tu parles, elle parle pas.
Ouais, c'est l'arbitre. L'arbitre d'ailleurs a foiré quelques trucs un peu comme ça, quoi, en n'étant pas très bien positionné devant les filles, quoi. Donc ça, c'était pas terrible. Mais alors là, pour le coup, je suis pas vraiment dans l'ambiance de l'archange, parce que alors là, moi, j'ai adoré le Charlotte versus Ronda. J'ai trouvé que c'était une absolute fucking war. Moi, j'ai marché dedans à fond, mais alors à fond. Alors évidemment, aucune objectivité, aucune analyse, aucune finesse. Moi, je suis un fanboy absolu de Ronda, donc je parle avec le cœur, je parle avec les yeux de l'amour. Voilà, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé les deux fantastiques. Voilà, les kendo, tout le passage sur le titantron, tout le passage dans le public, etc., quand elle essaye de l'étrangler entre les espèces de barres, là, les rampes, là, moi, j'ai trouvé ça très, très bon, de la violence, de la haine et tout. Moi, ça collait très, très bien. Je me suis régalé, mais franchement, du début à la fin, j'étais même en train de regretter insidieusement que j'aurais bien voulu que ça soit le main event. J'ai marché à fond du début à la fin, et j'ai trouvé Ronda excellente au micro quand elle catch en même temps. Finalement, il faudrait qu'elle fasse tout le temps ça. Et j'étais un peu inquiet justement de cette stipulation à quit. À quit match, et moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré. Charlotte elle pleure, mais Charlotte elle pleure quand elle gagne, elle pleure quand elle perd. Donc avec Charlotte, on est habitué à ce qu'elle pleure en fait. Hein.
En même temps, t'es donc, de dire, on reproche à Liv Morgan ce qu'on encenserait presque pour Charlotte Flair. Alors attention,
ouais, c'est pas loin de ça, c'est pas moi qui le dis.
Hein. C'est vrai, ça vient pas de moi.
C'est vrai que Liv Morgan a cette réputation de chialeuse, mais alors que Charlotte nous le fait finalement
toute,
à chaque pay-per-view.
Elle chiale tout. Mais
non, pas nous.
Elle chiale tout. Dès qu'elle gagne une ceinture pour la première fois, elle chiale.
La misogynie de retour au studio 4.
J'attends que Réa Ripley vienne te coller une ou deux lariates là, au Giscale là, parce que là.
Giscale, tu vas pleurer.
Ah ouais, non.
Bianca, elle chiale, Sacha, elle chiale, Bayley, elle chiale, tout le monde chiale.
Triple H, il chiale jamais, lui non plus. Voilà, c'est bon.
Non, je me souviens pas. Non.
Vince McMahon, là, il était parti, qu'il l'avait démis, il était plus au board. C'est vrai. Il avait pas, je suis désolé, mais tu peux plus être au comité, la direction et tout.
Mais stock options alors.
Le point de vue d'un misogyne sur ce match, Giscale.
Alors, le point de vue d'un misogyne. Écoute, peut-être. Ouais. Non, je suis un peu entre vous deux. Je suis un peu entre vous deux. J'ai trouvé que c'était un très bon I Quit match. Très bon I Quit match. Bonne utilisation de la stipulation, mais peut-être pas avec les bonnes personnes, en fait. Je l'ai trouvé bien écrit, bien fichu. En fait, pourquoi aussi? Parce que c'était un bon cache-misère, je pense, pour Ronda Rousey, que je porte sans doute un peu moins dans mon cœur. Je trouve que je me rapproche plus de Géliel là-dessus. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sonnent faux, en fait, quand tu la regardes. Et d'ailleurs, la remarque, je me l'étais même pas faite, mais c'est vrai que je pense que tu as raison, Géliel. C'est vrai que c'est bizarre, en fait, de voir Badust sur son t-shirt, alors que il y a rien qui fait Badust, en fait, dans son attitude. Alors certes, hein, quand elle commence à, en fait, quand elle est dans le ring et qu'elle commence à placer ses soumissions et tout, c'est cool, surtout sur une stipulation comme ça. Mais j'ai du mal à décorréler ce match de l'ensemble, en fait, de la storyline, de ce qu'est Ronda Rousey, de son personnage. Pris vraiment à part, c'est vraiment un bon I Quit match. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a trop de choses qui sonnent faux, en fait, avec elle. Et qui font que y a des moments qui sont un peu gênants, il y a des moments qui sont mal exécutés. Par exemple, oui, c'est vrai que je sais pas si c'est de la misogynie, j'en sais rien, mais je trouve que les I Quit Match là comme ça où ça queen, dès que tu leur tends le micro, elles hurlent à la mort, on a l'impression qu'on les égorge, elles sont limite en train de chialer à chaque clé de bras. Je trouve que c'est presque inaudible à force, en fait. C'est bon, ok, deux, trois fois, mais au bout d'un moment, quand ça fait 15 minutes que c'est que ça, surtout qu'en plus on leur tendait quand même beaucoup le micro. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des I Quit Match, donc je sais pas, j'ai peut-être un souvenir qui est biaisé, mais je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de tendage de micro là. L'arbitre il était tout le temps avec sa perche là comme ça à arriver toutes les deux secondes. Mais globalement, ouais, c'était un bon match. C'est-à-dire que Ronda Rousey, quand tu la mets dans une config comme ça où il faut tabasser et cogner comme une folle furieuse, ça cache le fait que c'est pas une sport entertaineuse dans les règles de l'art comme Charlotte. Mais ouais, il y a cette dissonance qui est difficile à oublier et qui fait que j'ai pas complètement réussi à accrocher et je m'inquiète un peu pour la suite quand même, parce que Ronda championne, on l'a vu par le passé, les promos c'est pas ça, les matchs classiques c'est pas ça, elle pourra pas faire que des I Quit Match, elle pourra pas faire que des No DQ tout le temps. Je suis pas forcément super emballé pour la suite, quoi.
Oui, effectivement, tu l'as dit, un cache-misère, mais c'était un beau cache-misère quand même. C'était un beau cache-misère.
Ouais, je sais pas, moi j'ai du mal. Là, franchement, quand j'entends ça, techniquement parlant, je suis désolé, mais sur le ring, quoi, quelle fille dans le roster propose de réussir à coller des Tomoe Nage comme elle a collé sur le Titantron à Charlotte? Quelle fille est capable d'enchaîner différentes prises comme elle le fait? Je vais pas citer les prises de judo, etc. Je vais pas jouer mon technicien là-dessus, quoi. Mais il y a pas d'autre fille qui sait faire ça.
Non, mais
je vous trouve trop dur, en fait. Mais je comprends. Mais par contre, comme souvent à Catch Up, je comprends vos arguments. Mais
je peux pas, monsieur Tonton.
Je peux pas. Ouais, voilà, je n'ai pas le monopole du cœur.
Mais Tonton, et le truc, c'est que si elle est championne, il y a des matchs de weekly, tu vois, il y a des matchs un peu comme ça à gérer. Il y aura des matchs un peu de début de feu et tout. Tu vois, elle pourra pas faire des tomonagés sous le titan tronc ou des clés de bras dans le public entre deux barrières. Tout ça, c'est des spots super stylés. Mais le problème, c'est que j'ai le sentiment qu'en fait, quand tu sors de ça, je pense que c'est un peu plus dur, quoi. Mais
la réponse, mais je suis d'accord. Contre, je fais un match à weekly, tout simplement. Hein.
Enfin, j'ai fait pas mal de reviews. Que ce soit avec
déjà, je peux faire une Brock Lesnar, ouais, j'avoue.
Même déjà, essayons d'imaginer contre quelqu'un d'autre, quoi. Parce que elle a quand même pas catché des masses contre Charlotte, quoi. Donc en plus, quand on met, pour moi, une shape qui est quand même pas extraordinaire. Et le fait que c'est un peu l'adversaire unique, je suis assez aussi circonspect sur la suite, quoi. Voilà.
En tout cas, les deux femmes nous ont offert quand même un gros match.
Non, mais c'était un beau spectacle.
Stipulation. Hein, maintenant, effectivement, la question va plus se poser sur l'après. Effectivement, déjà Ronda Rousey qui effectivement va sûrement aller se trouver une nouvelle rivalité, parce que là pour Charlotte ça sent quand même la grosse pause là, hein. Ça sent la grosse pause pour Charlotte.
Oui. D'ailleurs ils ont annoncé pendant le pay-per-view que apparemment elle avait un radius fracturé.
Le radius fracturus, effectivement. Charlotte
fracturus du radius,
éloignée des rings, se reposer et puis aller retrouver son coquin de mari et son sacré paternel pour un repos bien mérité pour Charlotte. Et puis Ronda aussi qui va devoir se trouver une nouvelle rivalité, hein. Maintenant, ça y est, c'est la championne. Hein. Elle vient rajouter le titre de SmackDown, hein, parce que c'est bien le titre de Monday Night Raw qu'elle avait. Donc voilà, les deux titres sont à elle dorénavant. Allez, on va aller sur un match qui va mettre cette fois-ci tout le monde d'accord sur sa qualité. Un match qui avait évidemment toute sa place, peut-être. Et sûrement des gens qui trouveraient ça normal, ça aurait dû être le main event. Et je suis sûr qu'ils sont très nombreux, mais c'est la majorité silencieuse. Hein. Happy Corbin contre ce traître de Madcap Moss, un match entre les deux, donc Happy Corbin et Madcap Moss. Madcap Moss qui va donc devoir affronter son ancien partenaire, lui qui était le roi de la blague, hein, le roi de la vanne, Madcap Moss, qui débarque, une petite pop, avec ses bretelles. Il n'a pas changé son gear, hein, c'est très bien, il faut qu'il reste comme ça, habillé en crétin des Alpes, là. L'ancien champion de boxe là, qui compte pas se laisser faire, on déroule entre les deux hommes. Un match est tout à fait classique. C'est juste à durer un petit peu plus longtemps qu'un match de weekly, tout simplement. Beaucoup plus compétitif. Pas mal d'agilité de la part de Moss qui nous fait des leapfrogs, qui nous offre un petit peu qui nous déroule un petit peu un catch pas juste bourrin. Et puis, un sunset flip qui est passé pour Madcap Moss. Et puis, ça se termine sur un petit paquet, non ? Sur un espèce de petit roll-up suivi de son sunset flip, si je dis pas de bêtises. Tout simplement, moi, je dis merci, le baron, hein, trop sympa. Moi, évidemment, j'avais voté pour le baron parce que je ne peux pas voter contre le baron. Mais voilà, mon amour pour le baron m'a aveuglé puisque... Happy Corbin, c'est un homme généreux, avant tout, et il donne sa chance aux petits jeunes. Voilà, il s'est couché pour Roman Reigns, et aujourd'hui, il se couche pour Madcap Moss, tout simplement, Giscal.
Ouais, c'est ça. Écoute, c'était un match. Est-ce que ça a sa place sur un pay-per-view ou pas ? Moi, je trouve que oui, parce que c'est... il en faut, en fait, je trouve, des matchs comme ça, un peu légers. Et d'ailleurs, il était très bien placé, hein, c'est sa place. Hein, c'est assez standard dans une construction de pay-per-view, juste après le I Quit match pour faire souffler un peu tout le monde. Parce que voilà, hein, c'était quand même un gros match, une grosse confrontation, et avant le main event. Donc ça avait sa place. J'étais assez surpris de la longueur, comme tu l'as dit, hein, ça a quand même duré une dizaine de minutes. Et après, sur l'exécution, j'avais souvent tendance à dire à l'époque, quand on faisait des reviews de weekly, c'est peut-être pour certains les plus anciens se souviennent, mais c'est vrai que je trouve que sur des matchs comme ça, je trouve que c'est vraiment... j'étais assez déçu de Madcap Moss parce que certes, voilà, c'est un match qui mange pas de pain, c'est là pour faire souffler, on n'en attend rien. Mais justement, en fait, il en aura pas beaucoup, en fait, hein, des matchs comme ça, on va pas se mentir, hein. C'est pas un futur top guy du roster. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en plus, manifestement, la WWE avait décidé de leur filer un petit programme parce que s'il prend une victoire en pay-per-view, c'est que ça va continuer derrière. Donc, ils vont peut-être avoir 2-3 matchs, sans doute la majorité en weekly, mais il va quand même y avoir un petit programme. Donc, ça veut dire quand même qu'il va avoir un peu d'exposition et des matchs de pay-per-view, il ne va pas en avoir 36. Et quand tu as 10 minutes en pay-per-view, eh ben, c'est l'occasion d'installer, pourquoi pas, ton personnage de face pour la suite. C'est l'occasion d'être un peu reconnu du public et tout. Et là, je trouve qu'il... Bon, en fait, je retiens rien. Tu vois, est-ce que quand tu sors d'un match comme ça, est-ce que tu sais maintenant ce que c'est que le moveset de Madcap Moss ? Bon, il a gagné sur un sunset flip, mais tu vois, il a pas de signature moves, il a rien fait. Alors oui, il a fait 2 leapfrogs. C'est dommage. Tu vois, même quand on n'attend rien, je trouve que c'est des moments comme ça qu'il faut savoir saisir. Et en fait, tu sors de là et tu te dis, bon, bah, ouais, je m'en fous de ce qui va se passer pour la suite, parce que ce gars-là, bon, bah, je sais pas si c'est très fun. Donc, je suis quand même déçu pour lui parce que. Parce que je pense que c'est des matchs importants quand t'es dans la low card comme ça.
Ouais, alors on retiendra peut-être plus finalement la senton de Corbin là qui nous qui nous a. Ouais. Lui a l'air d'avoir mis son moveset. Moi j'étais assez impressionné.
Non mais ouais, grave.
Qui est sorti,
bah,
ouais. Que nous a
non,
fait.
C'est à dire que voilà Corbin.
Monsieur le baron.
Corbin il a son moveset. Les commentateurs d'ailleurs disent vintage Corbin quand il fait ses trucs et tout.
Bah, enfin, là, il a sorti du ring qui revient et qui met.
Ouais, exactement.
Très longtemps qu'elle n'était pas passée. Ça situe Madcap Moss sur la carte quand même, hein, parce qu'il se mangeait la close line là, de Happy Corbin. c'est qu'en général, t'es pas très haut sur la carte. Donc voilà, là-dessus, bon, mais, voilà, le baron était généreux. C'est une soirée générosité de la part du baron. Toi, Gélial, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Je l'ai pris pour ce que c'était, à savoir effectivement une respiration entre deux gros moments et puis surtout avant le main event. Je suis content que Madcap Moss ait pu finalement capitaliser sur son split avec Byron Corbin. Effectivement, je pense que ça aurait pu être là il y avait 10 minutes, ils auraient pu être à 120% tout le long, ça a pas été c'est pas ce qui est forcément ressorti. C'est dommage parce que je trouve quand même que il y a une certaine capacité athlétique côté Madcap Moss, il est rapide, il est puissant. Je trouve que quand il court là, quand au début du match, il fait ses deux allers-retours dans les cordes là, ça bombarde quand même. Et là, il y a quand même moyen de faire des choses là-dessus quoi. Donc la partie micro, on a vu que en dehors des blagues drôles, il faudra voir ce qu'il est capable de faire derrière si le perso est un peu rebuildé. Moi, c'est pas que j'y crois particulièrement. Hein. Effectivement, ça va pas être forcément la future tête d'affiche de la WWE. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux, donc ça venait pour moi finir et légitimer complètement le split avec Corbin pour partir sur autre chose. Ouais, je rejoins un peu jusqu'à, ils auraient peut-être pu prendre un peu plus de risques et faire des trucs un peu plus spectaculaires ou un peu plus,
ouais,
un peu plus sympa
quoi.
Sur le créneau quoi. Ouais, voilà. Et donc un peu déçu, même si pour moi ça conclut bien, enfin s'ils en restent là, ça conclut bien l'histoire, et puis voilà, ils vont partir de chaque côté là-dessus. C'est vrai que 10 minutes en pay-per-view, ça se normalement, effectivement, je suis d'accord, ça fait un peu raté ou un peu mitigé quoi.
Ouais. Il y a que le baron qui s'est amusé peut-être, parce que ouais, je reviens à cette Santon, parce que j'ai l'image de Baron Corbin faire une Santon, elle était un peu dégueulasse mais elle était marrante. Bon, écoute toi, tonton, qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que les deux hommes ont maximisé leurs 10 minutes ?
Je pense pas, mais moi je pense qu'ils ont pas montré grand chose justement, tu vois. Je trouve que Madcap Moss, je n'entendais rien de ce match et il m'a rien montré de plus quoi. Donc comme ça c'était réglé. Je vais être assez rapide. Moi je comprends pas hein, le concept de il faut respirer entre deux matchs, etc. Je peux le comprendre dans une carte comme WrestleMania avec 9, 10, 11, 12 matchs ou un Rumble et choses comme ça. Mais moi, dans une carte où il y a 6 matchs, j'attends pas d'avoir un match qui soit une pause respiration, une pause pipi, une pause que vous voulez quoi. Franchement, moi c'est le genre de truc que j'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'était un match de weekly qui avait strictement aucun intérêt et le public s'arrête complètement à ce moment-là alors que le public était super chaud depuis le début. Il se passe rien. Enfin pour moi, Madcap Moss, je lui vois aucun avenir. Hein. Et Happy Corbin, par contre, restera un heel mid quart d'heure. Voilà, comme l'ont fait plein d'autres heel mid quart d'heure avant lui. Mais très franchement, je ne comprends pas ce concept de respiration. Je vais parler en langage de Jens. Moi, il y a une carte avec seulement 6 matchs. J'attends 6 bangers. Et je veux qu'on m'en mette plein la gueule, quoi. Je veux ressortir du truc, je veux être lessivé, quoi. Et quand
en
je
mode pay-per-view NXT, quoi.
Ah ouais, moi, en mode takeover old school NXT, ouais. Et tu vois, moi, je veux être lessivé. Je ne veux pas respirer pendant un pay-per-view. Et ce Madcap Moss Happy Corbin, bah, pour moi, c'était pas zéro, parce que je mets jamais zéro à des catcheurs, quel qu'il soit, parce que je respecte le taf. Mais pour moi, quand on aura éteint l'enregistrement de notre ingénieur du son favori, j'aurais déjà oublié ce match.
Effectivement, surtout qu'en plus, les respirations, on les a, ils nous mettent plein de packages vidéo, des interviews là, dans le stade. Bon, on a de quoi respirer.
C'est vrai que pour une carte de 6 matchs, c'est vrai que t'as pas tort. C'est vrai que j'étais resté un peu sur les anciens formats, un peu à 7, 8, 9 matchs de pay-per-view généralement,
et ouais,
avec beaucoup de matchs plus courts. Parce que c'est vrai qu'on a mis globalement plein de matchs assez longs.
Il n'est même pas si court que ça finalement.
Merde. Il est même pas merde, alors ouais, on a. Ouais. Il y a un titre intercontinental, il y a un titre des États-Unis, il y a des beaux champions et on nous colle un
Happy
Corbin. C'est un scandale, quoi. Ricky LaBelle, il aurait dû être dans ce pay-per-view.
Ah, d'accord, le titre, voilà où tu voulais en venir, ok.
D'accord, ok. Ah, bah et voilà. Oui, il est encore employé. Il est encore employé, lui.
Ouais, ouais, non, mais c'est toi qui va bientôt plus être employé si tu continues comme ça. Parce que si t'arrives en disant du mal de Ricky, alors là, ça va partir en sucette.
C'est fou, ça, Ricky LaBelle, il est encore là. Mais il fait encore du catch.
Le problème n'est même pas lié à Ricky. Le problème, il est.
Il vend pas des télés chez Best Buy là.
Il est lié au titre intermédiaire, quoi. C'est-à-dire que les titres intermédiaires dans les pay-per-view, c'est devenu d'une pauvreté depuis le Corona Mania. Moi, je suis sidéré. Hein. Franchement, le titre US a eu des apparitions en pay-per-view, etc. Mais il est de temps à autre dans le pré-show quand il y est pas du tout. Et vraiment, là, moi, je suis vraiment très désagréablement surpris par contre sur le mode sur lequel fonctionne la WWE avec les titres intermédiaires depuis le début de l'année.
Allez, un petit scud au passage de la part de Tonton sur les titres intermédiaires, ça fait pas de mal,
c'est cadeau.
Bon allez, on passe aux choses sérieuses. Après cette respiration dont on serait peut-être passé, direction le main event. Là, il y avait pas qui s'était dit que Roman Reigns ne serait peut-être pas en main event. Je comprends même pas. C'est comme les gens qui n'ont pas voté pour Roman Reigns, pour la victoire de Roman Reigns. Nous ne comprenons jamais ces gens. Ces gens.
Il y en a.
Oui, il y en a malheureusement. Ils existent encore. Et c'est pas forcément ceux que tu crois. Hein. La Vipère et Jimmy Uso, c'est eux qui vont commencer. Ils représentent d'un côté les RK Bro et Drew McIntyre, qui est l'invité du jour face à la Bloodline. Alors, des entrées qui durent des 15 minutes, évidemment, quand la Bloodline arrive en ville. Eh ben, il faut prêter allégeance. Il faut reconnaître le chef de la table. Donc, Randy Orton et le frangin Uso qui commencent. La foule est chaude. Rhode Island est brûlant ce soir. Les chants commencent alors que les deux hommes ne se sont même pas touchés, ne sont même pas effleurés. Orton se retrouve à un moment donné dans le coin du ring et il met sa petite pichenette dans l'œil, là. Ça, c'est ça fait toujours marrer, voilà. Il lui arrache un œil, tout simplement. Ce qui permet à son frangin, son poteau, son friend Riddle, d'entrer pour faire un petit peu de double team action. C'est McIntyre, un petit peu plus tard, McIntyre qui va devoir creuser un petit peu hein, pour trouver la pop. Pas facile, hein, pas facile pour McIntyre ce soir avec un Randy Orton qui était en feu. C'est un petit peu Randy qui a récolté toute la ferveur de la foule. Il balance Jimmy dans le coin et surtout il lance un défi au chef tribal à la tête de la table. Il lui dit « Allez, viens, si t'es un homme, viens si tu l'oses ». La main lui dit, mais attends, non, mon bon chef, ne fais pas ça, voyons, tu ne lui dois rien. Et puis, un truc que j'ai trouvé, Roman Reigns a retrouvé la psychologie qu'il avait réussi à avoir au début de son nouveau gimmick, là, où il écoute la foule, puis ça, il a investi d'une mission, il dit, bah si j'y vais. Et donc, il fait le tag, alors, on a le face-à-face entre l'Écossais et le champion unifié. Mais c'était un leurre. Roman Reigns se barre, il refait le tag. Alors là, la foule n'est pas contente. J'imagine que personne n'était content. Tout le monde était en colère devant son écran. Donc du coup, ça se met sur la tronche. Et finalement, Roman Reigns et McIntyre ne se mettront pas sur la tronche tout de suite. C'est la Vipère qui revient pour le tag. Alors, la foule en délire. Un RKO qui est placé. Jimmy s'en bouffe un autre. Et c'est Jay qui finit par placer... par casser. Alors le RKO sur Roman Reigns, c'était fantastique. Hein. Roman Reigns qui venait pour inspirer, il me semble.
Grosse pop.
Ah ouais. Là, le RKO bien placé. Énorme, ouais. Ah ouais. On sent qu'il l'a eu un peu au dernier moment, mais qu'il a réussi à le placer. J'adore. En fait, j'adore quand Randy Orton fait ça. Tu dis, mais c'est trop tard. Jamais il va pouvoir placer son RKO. Et puis il trouve toujours un moyen de le placer. Et ça, c'est fantastique. Bravo, Randy. Le match reprend, et alors là, ça commence à partir en couille, même l'arbitre ne sait plus où il en est, tout le monde se met sur la tronche, sur le ring, en dehors du ring, Reigns qui balance McIntyre à travers la table des annonceurs, Riddle qui se débarrasse de Jay avec un RKO depuis la troisième corde avant que le chef tribal vienne le couper en deux avec un spear pour la victoire finale. 1, 2, 3, un match incroyable, une ambiance complètement électrique ce soir dans ce match à 6. Géliel, alors, ça va? T'avais encore un peu d'air, encore d'oxygène à la fin de ce match, de ce main event de Backlash?
Ah ben oui, et surtout grâce à la respiration du match précédent, bien entendu. mais ouais, gros match, énorme match. En plus, à 6, j'en attendais beaucoup parce que ça permet quand même de tourner, donc ça permet d'avoir des catcheurs qui soufflent et donc de maintenir in ring un rythme élevé. Et pas déçu, quoi. Les Ouzo, qui sont toujours quand même quelque chose de référence en termes de tag team. Roman Reigns qui a fait son jeu avec je rentre pas et puis finalement je vais m'y coller. RK Bro avec Randy Orton et Riddle qui ont un jeu assez sympa. Riddle, il apporte beaucoup hein, avec sa vitesse, avec son dynamisme, plus une espèce de petite folie qu'on sent capable de s'exprimer à chaque moment, donc ça c'est très sympa. Et puis Drew McIntyre qui effectivement a eu du mal à s'imposer au début parce que entre Randy, la Bloodline, c'est vrai que c'était compliqué d'avoir une partie de la pop, mais il a quand même su revenir. Il y a eu quand même eu des gros spots, il y a eu du Claymore, il y a eu la partie passage à l'extérieur du ring avec éclatage là quand tout le monde est à l'extérieur du ring, que la table des commentateurs vient d'exploser là. Enfin, c'est un moment de bravoure assez incroyable, quoi. Et puis ça revient, et puis ça se termine effectivement avec la victoire de la Bloodline. Gros moment. Ça nous a pas avancé à grand chose, à part peut-être effectivement le face-off qu'on pouvait voir surtout au début entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Donc, mais je suis même pas sûr que ça puisse être définitivement quelque chose à retenir. Pour autant, le moment était dingue du début à la fin, quoi. Donc, j'ai vraiment vraiment adoré. Il y a plusieurs moments où je me suis levé sur mon canapé et voilà. Quand il y a que ce soit 2-2, mais là encore plus à 3 vs 3, comme ça donne des matchs assez fous, quoi. Et j'ai adoré.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé sur le Discord, je crois, Papy notamment l'avait mentionné, on aurait pu aussi rajouter une stipulation winner takes all, hein, comme on avait d'un côté des champions et qu'on était parti sur une fusion des titres, ça aurait été sympa, on aurait pu rajouter 2-3 spots complètement dingues avec des near falls assez incroyables, notamment de Drew McIntyre. C'est vrai que peut-être, mais le feu était déjà là en fait, il y avait déjà le feu dans l'arène ce soir, donc là c'était vraiment, on était en mode pyromane dans le Rhode Island. Tonton, The main event, ça foutu le feu à ta télé, à ton canapé?
Ah ouais, carrément, ouais. Le feu au slibard, hein, clairement, hein, 22 minutes, c'était plus possible, quoi, impossible de rester assis, quoi. C'était, moi j'ai pris ça pour ce que c'était, c'est-à-dire un énorme spot fest. La WWE, elle nous en a finalement assez rarement, hein, quoi. Là, on a vraiment un All-Star Game, quoi. On a un line-up, mais phénoménal. On a quand même l'homme de l'année 2020 à catch-up avec Drew McIntyre. Et puis bon, voilà, la tête de table, etc. Donc, du coup, le line-up, il est tellement génialissime que tu dis que, même si effectivement, il n'y a pas véritablement d'histoire à travers tout ça, quoi, c'est un face-off énorme entre une forme de blockbuster de la WWE qui nous propose, quoi. Et les mecs se sont donnés à cœur joie, donc vraiment, tout était là, toutes les signatures move, tous les rappels, tous les hommages. Randy Orton, c'est un truc de dingo, on le dit semaine après semaine.
Le selling sur le super kick était génial, oui.
Carrément, ouais. Pay-per-view après pay-per-view, le mec, voilà. Moi, je serais Randy, je postulerais à la présidence des États-Unis, hein, il a la popularité d'un politicien en campagne, là, qui enchaîne les meetings sous les divas de la foule. Randy, 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 c'est incroyable. La victoire de la Bloodline, peuple de catch-up, vous avez bien sûr écouté le gros pré-show et vous avez bien sûr voté la Bloodline parce que c'était de toute façon d'une telle évidence. Mais on n'était pas là d'ailleurs pour l'évidence de la victoire, on était là pour le Spotfest en lui-même et ce festival a eu lieu et j'en suis fort aise.
Ouais, jusqu'à évidemment une victoire évidente pour la Bloodline.
Évidente, évidente, évidente.
Il n'y avait pas photo. Qu'est-ce que tu en as pensé là, de ce gros main event?
Non, c'était génial. Moi, je partage le concert de louanges. Je trouve c'est super super enfin super main event qui pourtant avait pas mal de enfin avait pour moi l'écueil un peu sur le papier d'être enfin il avait deux défauts on va dire de prime abord avant que le match commence. C'était que déjà bah tu l'as dit il n'y avait pas de stipule, ça manquait d'enjeu en fait. C'est assez rare hein, d'avoir des main events de pay-per-view sans enjeu explicite. Après, il y a toujours les enjeux implicites. Hein. On sait que c'est pas complètement neutre pour Drew McIntyre d'être dans une équipe gagnante. Pourquoi pas légitimer sa place pour les titres de Roman Reigns. De la même manière, RK-Bro et chasse un petit peu les Usos pour essayer de leur faire crasher un match d'unification. Donc, il y a un petit enjeu implicite. Mais bon, on était quand même sur le papier sur un peu un 2 plus 1 contre 2 plus 1 qui est assez propre un peu à House Show ou au Main Event de Weekly et qu'on a assez rarement l'occasion de voir en pay-per-view. Comme ça, sur le papier, je trouvais ça assez casse-gueule. Je me suis dit, bon, ok, voilà, ça va être très spot-fest et puis, voilà, quoi, c'est tout. Et puis, on va se retrouver sur du booking 50-50 avec les faces qui vont gagner pour avoir leur spot. Comme d'habitude, on fait perdre le champion dans un match par équipe ou dans un match un peu anecdotique pour légitimer un title shot. Je pensais qu'on allait se diriger vers cette sécurité un petit peu. Et en fait, finalement, on a eu un truc qui était complètement dingo. Ça, pendant, voilà, vous avez déjà tout dit, pendant 25 minutes, c'était la folie, des slips qui volaient dans tous les sens, et un bête de match. Et avec le bon résultat, en effet, je pense, qui est la Bloodline qui gagne, parce qu'ils doivent, tout gagner. Enfin, en fait, ils sont tellement. C'est tellement fort ce qu'ils ont fait, je pense, avec Roman Reigns et avec cette faction. Qu'ils doivent pas perdre. Je me demande même si je pense qu'ils doivent même pas perdre un match de l'année. Je pense pour il faut qu'ils continuent. C'est trop gros ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils en fassent un truc légendaire, je pense. Donc c'était évidemment le bon résultat. J'ai mésestimé on va dire l'intelligence des bookers. Sur ce coup-là. Mais donc voilà, et puis je pense que ça va leur permettre en plus derrière de se positionner comme ouais, les rois du monde, quoi. Vraiment être là en mode, mais allez vous faire foutre, les autres vont leur courir après, mais on est tellement au-dessus, on vous emmerde. Enfin, je pense que ça va être vraiment très très stylé de voir les dynamiques après ce match. Mais au demeurant, voilà, main event de Barjo. Ils ont fait de quelque chose qui aurait pu être anecdotique un main event. Assez mémorable, quoi. Enfin, franchement, ce match-là, je m'en souviendrai pendant un petit moment. J'ai trop kiffé.
Eh bien, écoute, c'est là-dessus que c'est terminé. Cet incroyable pay-per-view avec un main event de folie qui a mis le feu, tout simplement, au monde. Le monde entier. Le monde entier a été mis à feu avec la Bloodline, les RK-Bro et Drew McIntyre. Messieurs, avant d'attaquer les résultats des pronostics, je vous propose l'heure du mot de la fin. C'est l'heure de nous partager votre top, votre flop et votre note. Et tiens, Giscard, je t'ai toujours sous la main. Ah. C'est à toi, l'honneur.
Allez, ma note, j'ai mis 3,75 sur 5, juste en dessous du 4, parce que pay-per-view super solide, hein, on va pas se mentir, très 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 compact, 6 matchs, de la qualité de bout en bout, hormis la petite respiration dont on a parlé. Mais ce qui manquait pour aller chercher plus haut, je pense que c'était un peu plus d'enjeu. Voilà, on en a parlé, hein, ça manquait de ceinture, ça manquait de match pour le titre. Donc c'est mon petit regret. Mais bon, si les pay-per-view secondaires peuvent être tous comme ça toute l'année, je pense qu'on va s'éclater. Donc beau moment. Sur le top, j'ai pas mal hésité entre le main event et Cody Rhodes, mais je vais le donner à Cody Rhodes parce que c'est la redécouverte hein, dont je parlais en intro de l'épisode. Pour moi, je redécouvre le bonhomme. Je reprends le catch et je reprends avec un Cody Rhodes qui est très très impressionnant, pas que pour son moveset, mais pour tout ce qu'il dégage, pour tout ce qu'il embarque pendant son entrée, dans son jeu avec le public. Je vois vraiment une superstar que je ne voyais pas du tout à l'époque quand il est parti. Donc je suis très impressionné de et je me dis que ça vaut le coup que je regarde tout ce que j'ai manqué de lui parce que j'adore. Le flop, il n'y avait pas grand chose à jeter dans ce pay-per-view, mais je vais rester sur ce que j'ai dit sur Madcap Moss. Je suis déçu pour lui qu'en 10 minutes sur un pay-per-view comme ça, où il y a eu quand même globalement une très très belle qualité, qu'il n'ait pas réussi à mieux tirer son épingle du jeu et à faire en sorte qu'on se souvienne de lui Parce que voilà, je maintiens que il en aura pas beaucoup. Donc c'est vraiment dommage.
Gélial.
Pour ma part, alors j'ai trouvé le pay-per-view un peu court, 2h50 je crois, quelque chose comme ça. Mais c'était normal avec une carte qui était finalement pas énormissime. Et alors on a eu, alors on l'avait un petit peu regretté, mais du coup par rapport à deux fois deux nuits de WrestleMania où on a bouffé du paquet de vidéos pour la nuit d'après puis pour la nuit d'avant, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver. Je l'ai trouvé un peu short, un peu condensé. Voilà, c'était un peu le sentiment à l'issue. Sinon, pour rester dans le format, mon top va aller au main event. Voilà, je le prends. Ou 25 minutes de chaos total avec des catcheurs quasiment tous au sommet de leur art, quoi. Donc vraiment incroyable. C'est aussi pour ça que je pense on adore tous cette espèce de truc et voir des bonhommes en slip qui se jettent par-dessus les cordes. À côté de ça, mon flop. Je serais parti un peu sur Matt Catmos. Je vais le mettre à Ronda qui. Voilà, juste pour alerte, dans le sens où en dehors de ce format format spécial contre Charlotte, je sais pas trop ce que ça va donner entre, on l'a déjà dit, un skill mix qui est pas forcément au top, mix skill pardon, et puis une shape qui est pas forcément au top, et puis peut-être une histoire aussi, un positionnement qui est peut-être pas non plus forcément au top, quoi, la baddest en face, moi ça me, y a un truc qui marche pas. Donc voilà pour mon flop. Et puis la note, c'est con. Enfin, j'ai pas. Il y a eu une bonne entrée. Moi, la partie la partie Rhodes. En fait, il y a trois gros matchs qui sont Cody Rhodes, Edge et Style Edge, et puis le main event qui m'ont vraiment entertainé. Le reste, j'ai trouvé j'étais un petit peu moins bien. Je l'ai dit dans notre échange. Je vais partir sur un 3-5. Voilà. Alors, ça peut être un peu sévère pour un peu pure view qui est quand même de bon niveau globalement. Mais parce qu'il y a eu des moments un peu moins bien qui m'ont un petit peu plus, sans dire de sortir, mais un peu moins. Disons qu'avec 6 matchs, pour moi, il n'y a pas le droit à l'erreur. Quand il y en a une dizaine, on peut se dire il y en a 2-3 qui sont pourris et puis ça fait partie du truc. Là, il n'y a que 6 matchs et il y en a pour moi 2 qui étaient vraiment en dessous, quoi. Et voilà. Donc, pour moi, ça ne mérite pas plus que le 3-5.
Tonton, c'est à toi. Si tu veux, hein, après, t'es pas obligé.
Aïe, tonton.
Il est pas obligé.
Le micro.
Non, mais je pense que ça, c'est parce que t'as critiqué Ronda.
Ah, c'est pas peu. Ouais, c'est Ronda. Alors, encore plus, j'étais en train d'attaquer sur. J'ai attaqué sur mon bon papy anti-Atemi, là. Parce que papy anti-Atemi, il a laissé son petit avis. Il est bien sympatoche. Ah, donc, il nous a mis dans la lignée de Mania et des Hebdo. La WWE, c'est de nouveau raconter des histoires. Top, le main event qui part dans tous les sens. Tu penses arriver à la fin avec la tournée de RKO, mais c'est reparti pour 10 minutes de castagne. Juste derrière, je mets l'opener qui m'a semblé bien meilleur que le Rhodes Collins de Mania. Cette fois-ci, pas de manque de réglage ou de pression. Le match était propre et top. Flop, difficile de ne pas citer le Madcap Moss versus Corbin qui était une affiche bien plus faible sur le papier que les autres et qui en plus n'aura pas offert de moments notables même si les deux ont bien bossé. En flop de complément, il met le Ronda Charlotte pour lequel il a trouvé la haine entre les deux. Sûr et mal joué, notamment les passages au micro, c'était laid, ce finish, ça faisait faux et je ne supporte pas ce sentiment quand je regarde du catch. Mais bon, dans l'ensemble, on reste quand même sur du très satisfaisant. Faut que la WWE poursuive dans cette voie et continue de tenter des trucs, des histoires, des stipus qui rendent leurs produits bien plus sympas à vivre, à suivre. Et sa note, c'est 3,75. Et comme moi, j'ai toujours besoin d'être à l'équilibre avec mon papy anti-Atemi, moi aussi, je vais mettre un 3,75. Mon flop, il ira à la WWE pour avoir collé ce Madcap Moss versus Corbin. Je mets même pas mon flop au match en lui-même. Je mets mon flop à sa présence dans la carte. Et je trouve... scandaleux, je le répète, je suis indigné que le titre IC ou le titre US n'ait pas eu droit à son spot dans un
c'est vrai.
Pay-per-view, un PLE de 6 matchs. Moi, pour moi, c'était une vraie déception et je l'avais de toute façon annoncé dès le gros pré-show. Et mon top, je suis ravi d'ailleurs de donner ce top-là parce qu'en plus, c'est archi clivant pendant toute cette review et c'est bien ça qui est bon à catch-up parce que moi, justement, je vais le donner à Charlotte versus Ronda. J'ai adoré Absolute Fucking War, je le répète. Moi, c'est passé crème. C'est que du bonheur. Moi, je veux des matchs féminins tout le temps comme ça. De toute façon, il y en a tout le temps comme ça en ce moment. Les filles quand même, elles nous vendent du rêve, quoi. Que ce soit Bianca la béquille, etc. Alors, il y a que Giscale pour pas aimer le catch féminin, mais ça, c'est pas grave, peuple de catch-up, parce que je sais qu'à la différence de l'inénarrable Giscale, vous êtes une écrasante majorité à aimer le catch des femmes à la WWE. Donc, voilà, j'en ai fini pour ce top flop note.
Allez, à moi, ce qui me concerne, eh ben, c'est simple, mon flop, je vais le donner à Giscale pour son grand retour. Oh
pour sa performance exécrable.
Merci, patron. Parce que ce gros malin n'a pas été foutu de pronostiquer correctement le main event qui nous aurait évité du grabuge pour les résultats et on va en parler juste après. Donc voilà, bon retour parmi nous, Giscale. Un flop pour toi. Mon top, eh ben écoutez, vous en avez distribué tellement que moi je vais me faire un petit plaisir, je vais le donner à Rhea Ripley qui rejoint le Judgment Day. Ça m'a vraiment surpris parce que moi j'ai les rumeurs, mais
c'est mérité.
Ah la vache, quand j'ai vu ça, j'ai fait mais
ah, c'est top ça.
Surtout toute cette tension, savoir qui était sous cette cagoule, c'était vraiment bien foutu. Et ma note, eh ben pareil, à 3,75, j'ai trouvé que c'était un excellent pay-per-view avec plein de rematchs, mais pour beaucoup qui étaient, bah voilà, on est monté un petit peu d'un cran et c'est ça qu'on attendait. Et plein de belles choses là qui nous attendent pour la suite. Allez, les pronostics. On en a fait toute une campagne avec Tonton qui vous en a parlé sur les réseaux. On vous en a parlé pendant le gros pré-show mené par Ringside. Les pronostics, le championnat de pronos de catch-up. Les résultats sont tombés et il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse, tout simplement. Alors, je vais...
Oh, j'ai pas vu le dernier, c'est énorme.
Alors, effectivement, il y a eu de la casse pour donc ces 6 matchs. Il fallait pronostiquer les 6 matchs. Chaque match valait 2 points, tout simplement, parce que c'était tout simplement des 1v1. Et donc, ça fonctionnait. On était récompensé de 2 points, donc on pouvait gagner jusqu'à 12 points pour le fameux perfect qui était si cher à l'époque au cahier du catch. Alors, le dernier... Il a 0, je vais le citer parce qu'il le mérite et je vais le citer parce qu'il est là parmi nous ce soir. Géliel a fait 0. Alors ma question, Géliel, c'est est-ce que tu as compris comment on pronostiquait en fait? Et peut-être un interface utilisateur.
Non, mais je pense que j'ai été hacké parce que l'analyse fine que j'ai, que je porte habituellement se trouve être complètement à l'ouest. Non, mais c'est toujours le partage entre ce que j'aurais envie de voir gagner puisque je... Entre le fan et puis le gars qui analyse, donc voilà, j'ai été, enfin en même temps j'ai été cohérent, c'est-à-dire je me suis trompé du début à la fin. Je ne vais pas aller chercher une petite victoire pourrie comme ça. Non, l'erreur complète.
C'est plus impressionnant, je trouve, qu'un perfect.
Oui, carrément. et j'aimerais bien avoir un lot de consolation ou un point de consolation pour mon
perfect.
Un clean sheet au prono, c'est énorme.
Ah ouais. C'est incroyable. Tu veux le faire, tu peux pas en fait. Hein. En général, t'as...
Non, c'est, je pense que c'est même plus dur en fait.
Ouais. Un anti-perfect. Un perfect anti-perfect. Ben voilà, et t'es tout seul en plus. Hein. T'es une belle lanterne rouge, 26e au classement général, avec un beau zéro pointé pour Géliel. Ça fait plaisir. On n'a pas que des vainqueurs à catch-up, ça il faut le savoir. Bon, allez, on enchaîne, vous savez quoi? Parce que ils ont 4 points, donc deux bons pronostics. On a Chetty. Et aussi, on a un autre membre de Catch-Up. Coucou, on est vraiment des grosses buses à Catch-Up. C'est Papy. Papy qui n'a pronostiqué que 2 bons matchs. Donc, qui repart avec 4 points. Donc, bon, avant-dernier, hein, Papy. Voilà, bravo. Ensuite, on a enchaîné avec... ils ont réussi 3 pronostics. Donc, ils sont tous 14e. Je vous les cite. Frank, Freeze, Ducat, Jericho. Il y a des noms qui vont peut-être vous dire quelque chose. Hein. Johanna, Bébélu, Kyrias, Laetitia, 67-70, Mask Mojo, Raphaël... Onivoris, je ne sais jamais, je n'ai jamais su comment ça se prononçait. Et Yerem, je ne sais pas qui c'est assez bizarre. Donc,
bizarre de voir si bas. Ouais.
3 autres membres de la team catch-up, voilà, on est vraiment dans le vent.
Il était vraiment grand temps que je revienne mettre de l'ordre dans tout ça, parce que là, c'est n'importe quoi.
Une belle preuve que ces pronostics ne sont pas, qu'ils sont pas, il n'y a pas d'embrouille, hein, parce que voilà, sinon j'aurais évidemment fait un beau perfect. Ensuite, ils ont trouvé 4 matchs, donc avec 8 points, 6e place, Fitcan, Furiosa, Gino, Max Hardy, Internaute, Ringside, Sully Perfect 10, Wallagan, voilà, en 6e position. Et donc, Puisqu'il n'y aura pas de perfect pour cette première session de pronostics, on a 5 premiers, 5 pronostiqueurs qui se partagent la première place et ça fout la merde. Avec donc 5 sur 6, on a Jules, Seb, Taco 3, Ponton Ketchup. Yeah et Giscal, monsieur, je ne pronostique pas Roman Reigns.
Que je suis dégoûté.
Champion.
Faut savoir que Giscal a quand même un historique d'excellents pronostiqueurs. Il faisait des belles performances. Il a remporté plusieurs fois, j'imagine, les championnats organisés par les KID.
Absolument.
C'était très difficile d'aller le déloger. Une fois qu'il était parti, il était parti. Mais voilà, faux départ. Hein. Faux départ pour Giscal. Donc,
je ne sais pas ce qui m'a pris.
On se retrouve dans la panade parce qu'on n'a pas de gagnant clair. Et donc, comme vous le savez, on a 2 championnats à mettre en jeu pour les pronostics. On a tout simplement un championnat secondaire qui est remis en jeu à chaque fois sur chaque pay-per-view. Le vainqueur de chaque pay-per-view prend ou conservera la ceinture. Il s'agit du Catch-up Roll-up Championship. Et on a également un titre universel qui, lui, fonctionne un peu comme un maillot jaune hein, contre par rapport à l'autre qui est plus un mode vainqueur d'étape. Donc un maillot jaune, donc un titre qui peut être aussi changer de main entre chaque pay-per-view. Mais c'est plus difficile hein, parce que ça se compte sur tous les points, ça se départage sur les points au classement général. Oula, donc on a le Catch-up People Champion, donc spécial casse dédié à Tonton. Simplement le
millions and millions.
Champion du peuple. Du coup, il y a du grabuge. Et c'est comme la WWE, quand les résultats ne sont pas clairs, quand plusieurs hommes passent par-dessus la troisième corde en même temps, on va devoir refaire le match. Et du coup, on va organiser tout simplement un petit prono spécial pour nos 5 premiers. Jules, Giscal, Seb, Taco 3 et Tonton, je m'adresse à vous. Je vais poser là dans la journée, juste après l'enregistrement, une question qui portera sur le prochain Monday Night Raw. Et cette question sera telle qu'on aura normalement un vainqueur très très clair, puisqu'il faudra pronostiquer tout simplement la durée du dernier match du Monday Night Raw qui arrive, donc le Monday Night Raw du 16 mai. Donc je dis bien la durée du dernier match de Monday Night Raw. Alors pas de dark match, hein, le main event, catch-esque entre les cordes. Et celui qui se rapprochera le plus possible de la durée officielle, hein, on ira chercher le temps officiel du match.
À la seconde.
À la seconde près, plus ou moins. Il n'y a pas de si tu dépasses, c'est comme au juste prix. Oui. Hein, c'est pas comme au juste prix où si tu dépassais, t'étais niqué. Non, là, c'est vraiment celui qui s'en rapprochera le plus. Alors, il sera doublement couronné, avec d'une part le titre de champion roll-up et également le titre de champion du peuple de catch-up. Donc, on se donne rendez-vous donc sur les pronos là très rapidement pour départager donc ces 5 pronostiqueurs. Et c'est comme ça que commence. Ce premier championnat qui est lancé des pronostics de catch-up.
On est d'accord que moi, je ne peux pas participer. Hein. C'est bien ça. Hein. J'avais bien...
Oui, disons qu'il n'y a pas de dernier à départager. Tu es seul. Il y a même...
Ah, oui. Il faut peut-être faire une dérogation.
Ouais, du coup, oui.
Je suis...
Fond de la classe.
Voilà. Mais ce qu'on fera à l'avenir, je vous trouverai une petite question. On rajoutera à chaque fois pour chaque pronostic une petite question pour départager parce que vous êtes tellement fort. Voilà, tous, mais certains sont tellement forts que forcément la situation risque de se reproduire. Donc rendez-vous très très vite, on vous balancera tous les liens, toutes les infos sur tous les réseaux, les plateformes habituelles. Voilà, j'en ai fini pour cette première session de pronostics. Rendez-vous donc très rapidement donc à Monday Night Raw pour le couronnement premier champion pronostic de catch-up. Il est l'heure donc de vous donner rendez-vous pour... tous les liens habituels, hein. Catch-up, c'est évidemment disponible sur toutes les bonnes plateformes audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodCloud, Spotify et Deezer, ils ont fusionné, voilà. C'est Elon Musk qui a tout racheté, hein. Il a tout fusionné. Ah. Voilà. Voilà, il a peut-être racheté Catch-up aussi, hein. Je pense qu'il a suffi.
On ne sait pas. Écoute,
pourquoi pas.
S'il lui reste quelques milliards, peut-être.
Ça peut le faire. On peut négocier.
Les réseaux sociaux, c'est évidemment Catch-up CDC sur Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description de la vidéo YouTube sous laquelle je vous invite à nous partager, chers auditeurs et auditrices, votre top, votre flop et votre note pour ce premier pay-per-view de la nouvelle saison de la WWE WrestleMania Backlash. Je remercie Géliel pour ta présence et pour ce joli zéro pointé que tu nous as offert.
Merci IRM, et bah,
j'ai cru que la honte avait emporté uniquement dans le vortex.
Oh non. Il en faudra un peu plus, peut-être qu'au deuxième double zéro.
Ah oui, il va falloir faire plus là, monsieur, parce qu'en dessous de zéro, c'est pas possible.
Je relève le défi. Alors, en tout cas, merci IRM et merci à tous, Giscal et Tonton, pour cette super review de ce WrestleMania Backlash à 4. C'est hyper agréable.
Tonton va se faire voter le millénial.
Oui, peut-être. Yes. Oui, faut faire.
Alors, peut-être gagner.
Fais voter ton fils, lui, il va gagner, lui, tu vas voir.
Voilà, la saison a été lancée, mais tout le monde peut nous rejoindre à tout moment. On peut aller déloger. Enfin voilà, tout le monde peut participer à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'être à chaque fois dans les starting blocks. Alors évidemment, pour après aller déloger le champion du peuple, ça va être plus compliqué parce que ça joue au classement général. Mais le classement général sera de toute façon remis à zéro après WrestleMania. Mais c'est pour ça que le titre secondaire est là. C'est le titre des low quart d'heure, des mid quart d'heure. C'est la WWE comme à catch-up. Tout le monde a sa chance. Donc à chaque pay-per-view, vous pouvez devenir tout simplement un champion des pronostics de catch-up. Et ça, Tonton, c'est formidable.
C'est extraordinaire, être le catch-up roll-up champion, quel honneur. Mais alors le catch-up people champion, je compte bien quand même me mettre sérieusement dans la course. Et bah écoute, merci à toi Irem pour ce toasting de qualité. Bon, il y avait un autre gars là à côté de Géliel, je connaissais pas trop, mais bon ça va, il parle pas trop mal. Donc on va le garder sous le coude quand même à l'avenir. Merci à l'inénarrable Giscal. Et puis merci à l'archange, merci au patron et merci au peuple de catch-up.
Giscal, tu as fait ton grand retour parmi nous pour ce grand pay-per-view. Tu t'es planté en beauté pour les pronostics et tu t'es tapé un flop du patron. Je crois que là, ton retour a été fait en beauté.
C'est ça, j'ai été rebaptisé. C'est comme une deuxième naissance, en fait. Voilà,
reborn.
Non, je suis reborn, renew. Non, bah écoutez, merci à tous de m'avoir réouvert la porte du studio puisque j'ai bien vu que les clés ne fonctionnaient plus. Donc, mais c'était très cool. Je suis très content. J'espère que pouvoir reparticiper de manière régulière très prochainement. Merci à tous. C'était top.
Bon, on se donne rendez-vous évidemment très 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 bientôt pour la suite avec un Monday Nitro qui sera forcément d'anthologie. Évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes que j'ai citées. On vous donne rendez-vous à très très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut!
Ciao tout le monde!
Salut à tous!
Et salut peuple de catch!
Ok, il n'a pas perdu sa voix.